Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite et fin d'une semaine entièrement téléchargeable, évidemment, sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine où, bravement, vos professeurs auront accepté de jouer le jeu de l'épreuve elle-même, de subir, une fois de plus, l'examen de passage qu'ils ont gagné le droit de corriger. Une semaine pour les lycéens, les futurs étudiants, les enseignants-chercheurs qui sont le sel de la terre. Une semaine à l'attention des parents aussi, ces grands inquiets qui ne savent plus comment vous aider. Une semaine pour dire aussi une fois pour toutes qu'il est absurde, méprisant et contre-productif de cantonner au lycée l'enseignement de la philosophie à l'année de terminale. Imaginez un monde où des élèves de 15 ans, par exemple, apprendraient dès la seconde ou même avant que les questions qu'ils se posent tous les jours ont été posées pour eux par les philosophes, ces ancêtres charitables, porte-parole de l'humanité et compagnons du quotidien. Un monde où la philosophie serait enseignée dès l'enfance, multiplierait à terme et à coup sûr le nombre des adultes de bonne volonté. Après Charles Pépin, Philippe Danino, Nicolas Franck et Nathalie Chouchan, c'est-à-dire après la quête d'un sens, le désintéressement, les préjugés et la condition animale, c'est en compagnie de Violaine Chavannes, qui enseigne en terminale au lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne, que nous allons nous poser la question de savoir s'il faut n'avoir plus de désir pour être heureux. Un grand bonjour, Violaine Chavannes.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. Faut-il n'avoir plus de désir pour être heureux? C'est la question du jour. Une fois n'est pas coutume, j'ai presque envie de vous proposer, si j'étais élève, voilà, avec un tel sujet face à ma copie, de partir peut-être d'un paradoxe. Dites-moi si j'ai raison. Faut-il n'avoir plus de désir pour être heureux? Si l'on a le désir d'être heureux, comment en passer par l'abolition du désir pour y parvenir? Est-ce que ça n'est pas un paradoxe absolument insoluble et qu'il faut poser d'emblée?
Tout à fait, et ce paradoxe trahit le cercle vicieux dans lequel peut nous amener le sujet et qui trahit également son orientation. C'est un sujet qui est à la fois très classique et à la fois qui a une orientation très claire. Pour comprendre ce sujet, il faut comprendre ou concevoir que le désir fait problème. Que le désir peut être un obstacle, qu'il est à la fois ce qui me permet de me figurer un bonheur à venir, de tendre vers lui, et c'est en même temps ce qui m'en sépare, puisque ce bonheur précisément n'est pas là.
Et alors là, paradoxalement, hein, en général, toute la semaine, on a travaillé sur ces sujets, sur la première réaction que devait avoir un élève face à un sujet, cette première impression. Ici, d'emblée, peut-être, la première impression, elle est déjà conceptuelle. Il ne s'agit pas de... On est spontanément, en tout cas, dans la réflexion ou dans le paradoxe avec un tel sujet.
Mais dès qu'on est dans le paradoxe, on n'est peut-être plus tout à fait non plus dans la spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a en effet ce paradoxe qui peut sauter aux yeux, mais il peut y avoir aussi une réponse évidente qui consiste à dire « mais bien sûr que non ». Comment renoncer à nos désirs, mais comment séparer le bonheur et le désir? Qu'est-ce que serait un bonheur qui ne comprenne pas la satisfaction d'un certain nombre de désirs? Donc voilà, il y a à la fois ce paradoxe, et puis en même temps, moi je dirais que l'évidence, c'est plutôt de dire non, ce que n'osent peut-être pas les élèves.
Voilà, donc là encore, hein, ne brûlons pas les étapes, et allons vers l'évidence au départ, et donnons-lui sa chance. Alors une fois qu'on est allé vers cette évidence, vers cette première réponse évidente, il faut, comme toujours, dans cet exercice, construire une problématique, partir de l'analyse des termes du sujet pour obtenir une problématique qu'on gardera en tête ensuite tout au long de la dissertation.
Alors, en effet, donc, l'analyse du sujet, c'est bon, évidemment... plusieurs choses. C'est une analyse des concepts, mais on les réservera peut-être pour je vais en parler un petit peu, des différentes conceptions du désir qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, les réponses vont dépendre de ces différentes conceptions. Il peut y avoir également...
Il faut préciser une chose ici, hein, oui. C'est que dans l'intitulé, le mot de désir est au pluriel.
Au pluriel, tout à fait. Mm-hmm. Oui, c'est très important, puisque ça ne s'entend pas nécessairement. Et donc, la conception du bonheur aussi. C'est vrai que le bonheur est vraiment une question, une notion piège, un peu comme la liberté en terminale. C'est un peu l'auberge espagnole. C'est quelque chose de survalorisé. Donc, les élèves ont tendance à tout mettre dans le bonheur, d'ailleurs à confondre souvent bonheur et liberté, puisque la liberté c'est formidable, donc être libre c'est être heureux, et inversement, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ils ont aussi tendance à confondre une conception du bonheur avec l'image du bonheur, ce qui n'est pas pareil, puisque évidemment nous avons tous des images différentes du bonheur. Par contre, il y a un nombre relativement limité de conceptions du bonheur. Donc il y a ça dont il faut prendre conscience dès le départ, et puis il faut travailler, comme pour tous les sujets, sur les présupposés du sujet. Et ce sujet présuppose quoi ? Que nous avons des désirs. Bon, il y a des présupposés avec lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Celui-là, il ne s'agit pas forcément de les remettre en cause. Encore que ça marque que c'est une tendance naturelle chez l'homme que d'avoir des désirs, et qu'il faudra à un moment donné considérer cette question du point de vue justement de l'essence de l'homme. C'est-à-dire que si on disqualifie le désir, à un moment donné, peut-être qu'il faudra réfléchir au fait que, étant l'essence de l'homme, il faudra revenir sur cette disqualification. Ensuite, ce sujet implique qu'il y aurait une régulation des désirs liés au bonheur, et pose le bonheur comme fin suprême peut-être.
Et en tout cas comme un but.
Comme un but, voilà. Et même si ce n'est pas quelque chose que je développerai beaucoup, mais ça peut être une piste, hein, puisqu'on ne peut pas traiter toutes les pistes. Il est vrai que si l'on prend l'étymologie du mot bonheur, qui veut dire la bonne chance, bonheur, le bonheur apparaît plutôt comme quelque chose qui nous arrive de surcroît, comme quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ou en tout cas, précisément, qu'on obtiendrait une fois qu'on ne l'attend plus. Et ce serait une autre manière d'illustrer ce cercle vicieux ou ce paradoxe que vous aviez noté au début de la séance.
En somme, se donner le bonheur pour but, c'est se donner les moyens de ne pas l'atteindre.
Tout à fait. Voilà. Et c'est quelque chose qui est donc impliqué finalement dans les termes même du sujet. Et ce cercle vicieux, il faudra savoir comment on arrive précisément à en sortir. Voilà ce qu'on pourrait dire pour une analyse du sujet.
Et puis, et au terme, pardonnez-moi, oui. au terme de ces considérations liminaires, donc, hein, on est au seuil de la dissertation proprement dite, c'est-à-dire du sujet, de la problématique. Au terme de ces analyses, comment est-ce qu'on peut donc concilier tous ces éléments dans une formule, finalement, qui, sans être une formule magique, permet, qui serait la colonne vertébrale, finalement, de la dissertation.
Le problème ou la problématique.
Le problème ou la problématique, comme on dit.
Alors, le problème tourne autour de la nature du rapport entre le désir et le bonheur. Est-ce que, en effet, le rapport entre les deux est un rapport de conditions ? C'est-à-dire, pour être heureux, il faudrait un certain nombre de désirs, il faudrait surtout satisfaire un certain nombre de désirs, et donc de poser le bonheur comme objet extérieur au désir. Ce serait un premier rapport possible, mais on risque de tomber sur, en effet, en réalité, un obstacle, on risque de tomber sur le fait que le désir constitue un obstacle pour atteindre le bonheur. Ou bien est-ce que le rapport entre les deux ne serait pas un rapport en fait d'identité ? C'est-à-dire que, au fond, si on réfléchit au fait ce qui se passe quand nous allons bien, quand nous nous sentons heureux, prenons cet exemple-là, et c'est important pour les élèves aussi de partir de ces faits et de remonter ensuite comme ça à la manière dont on peut les expliquer. Quand nous nous sentons heureux, nous nous sentons pleins de désirs. Nous nous sentons désirants, et finalement notre bonheur s'éprouve dans cette capacité à désirer et à désirer encore, et sans le malheur forcément de ne pas avoir l'objet de son désir. Donc peut-être que plutôt qu'un rapport entre les deux, qui est un rapport de conditions et qui finalement tombe peut-être sur un rapport d'opposition ou d'obstacle, il y aurait un rapport d'identité ou une sorte de coextension, si je puis dire, entre le bonheur et le désir. Désirer, c'est être heureux dans le sens où il y a un bonheur même à désirer.
Donc vous poseriez en problématique une alternative, en somme, entre d'un côté l'hypothèse de la suppression du désir pour parvenir au bonheur, et de l'autre côté la voie d'une identification du bonheur au désir.
Tout
et finalement,
fait.
C'est entre ces deux termes que se joue la dissertation.
Tout à fait. Et ce que je ne dis pas également tout de suite, c'est comment on peut trouver cela, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en jeu là-dedans, c'est la conception du désir. C'est-à-dire que, puisque je dis, ce sujet n'a de sens que si le désir fait problème, c'est-à-dire que si on conçoit le désir comme manque. Et donc, ce qui nous fait passer à un terme de l'alternative puis à l'autre, c'est soit qu'on conçoit le désir comme manque, ou soit qu'on le conçoit comme puissance.
Alors, il faut ici revenir, vous avez donné l'étymologie de bonheur tout à l'heure, Violaine Chavannes, il faut revenir sur l'étymologie de désir même. Hein. Étymologiquement, le désir, c'est la nostalgie de l'étoile.
Tout à fait.
Desiderare, c'est la nostalgie de l'étoile. Qu'on peut également comprendre comme l'absence de l'étoile. En d'autres termes, soit le désir est pensé comme manque et on désire toujours décrocher la lune, on a toujours la nostalgie de l'étoile et le désir nous porte toujours au-delà, ce qui en fait un aiguillon d'ailleurs d'une philosophie entendue comme amour de la sagesse. Soit le désir, c'est l'absence de l'étoile, le fait que comme les pourceaux d'Épicure, nous ne regardions plus le ciel. Et de ce point de vue, alors, le désir n'est plus l'expression d'un manque, mais davantage d'une surabondance.
Oui, tout à fait. On peut retrouver finalement cette alternative ou cette dialectique dans l'étymologie. Je dois dire que moi, je vais l'employer davantage dans le sens du manque. Et donc, je n'avais pas pensé au fait que ça pouvait être aussi l'absence. Et donc, finalement, que ça supprimait la question de l'objet également. Et ça nous laissait face au désir lui-même comme puissance.
Mais ce qui, en soi, n'est pas très grave, puisque il y a plusieurs voies possibles pour traiter un sujet.
Tout à fait.
Donc, on va suivre le cheminement que vous nous proposez, Violaine Chavannes. Faut-il n'avoir plus de désir pour être heureux? C'est le sujet du jour. Ah, qu'on est malheureux quand on a du désir, c'est le titre de cette pièce de Marc-Antoine Charpentier qui vient ponctuer notre conversation. Violaine Chavannes, vous êtes notre invitée, l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi pour clore une semaine consacrée au bac philo, une semaine au terme de laquelle nous aurons traité 5 sujets. Le sujet du jour, le dernier de la semaine, c'est « Faut-il n'avoir plus de désir ?» pour être heureux. Alors, on a vu en introduction que vous vous acheminiez vers une problématique qui était une alternative entre d'un côté l'hypothèse de la suppression du désir pour parvenir au bonheur et de l'autre côté l'hypothèse de l'identification du désir au bonheur. Nous entrons maintenant dans le corps de la dissertation et nous vous écoutons.
Merci. Donc, en introduction, pour rappeler les quelques éléments que nous avons donnés comme ça en vrac, je rappellerai qu'il est bien de commencer comme ça, dans une dissertation, de commencer par l'étonnement. Les élèves peuvent tout à fait commencer par l'étonnement et montrer que la question nous paraît bien surprenante, puisque si l'on regarde ce que nous faisons, la manière dont nous vivons, ne cessons-nous pas tous de poursuivre nos désirs en espérant trouver le bonheur ? C'est une donc tendance qui nous apparaît très générale. Plus particulièrement, on peut penser à la société de consommation dans laquelle nous vivons, qui suggère que le bonheur réside dans la satisfaction de tous nos désirs, et notamment de nos désirs matériels.
On sent d'ailleurs qu'on pourra retourner cet argument en expliquant que la fabrication du désir qu'on prétend ensuite combler pour apporter le bonheur est en elle-même une source de malheur infini, ce qu'on a appelé la détresse de l'homme moderne.
Tout à fait. Donc, et qui fait référence à l'extrait musical, au titre de l'extrait musical que vous avez passé. Donc, une fois qu'on on s'est étonné de cette question, on peut tout de suite, en effet, se dire que le désir, une fois satisfait, ne cesse de renaître, et qu'au fond, dans cette quête perpétuelle du désir, l'homme n'est jamais tranquille et satisfait.
Là, on est dans la première partie. Hein,
on est encore dans l'introduction, si je puis me permettre.
Ah oui, carrément.
Mais peut-être qu'on peut passer tout de suite.
Allez-y, c'est vous qui décidez.
Non, donc un peu dans l'introduction, juste, et pour reposer cette alternative dont vous parliez, et qui était donc entre l'annihilation du désir, et puis, par ailleurs, une identification, d'un autre côté, entre le désir et le bonheur. Je voulais juste rappeler que ce qui est en jeu, c'est à la fois la conception du désir et à la fois celle du bonheur que l'on fera varier au cours de la réflexion. Donc, j'en viens à ma première partie. Donc, je viendrai dans une première partie à cette idée que, finalement, être heureux ne peut se concevoir sans le désir. C'est-à-dire, je partirai de cette évidence qui a suscité l'étonnement premier. Et dans un premier temps, nous allons voir...
Ce qui est souvent d'ailleurs une bonne façon de faire. C'est très utile de donner sa chance à l'idée reçue qui nous fait répondre d'emblée à la question qu'on nous pose. Une première hypothèse, c'est toujours une bonne façon de procéder.
C'est
le plus souvent, disons.
Oui, une bonne façon, une façon très naturelle. Au fond, puisque une dissertation doit marquer une progression, il s'agit, par exemple, de passer de l'idée la plus évidente à celle qui l'est moins, en progressant petit à petit par une levée des difficultés, enfin, ou plutôt une mise à jour des difficultés, puis leur résolution. Alors, dans ce premier temps, il nous semble en effet qu'il y ait un lien naturel entre désir et bonheur. Et ce lien se trouve déjà dans le fait que le bonheur nous apparaît comme ce qui est suprêmement désirable. Et en ceci, je ferai référence à l'éthique à Nicomaque d'Aristote, et plus spécifiquement au chapitre 5 du livre 1, où Aristote définit précisément le bonheur ainsi. C'est-à-dire que le bonheur est ce qu'on désire en vue de lui-même et non pas en vue d'autre chose. Et il distingue le bonheur des autres biens, qu'il reconnaît être des biens, qu'il ne disqualifie pas du tout, comme la richesse, les honneurs, les plaisirs, qui se cherchent pour eux-mêmes, mais également en ce qu'ils procurent le bonheur. Or, le bonheur, lui, n'est recherché que pour lui-même. C'est donc le suprêmement désirable. Et donc, dans cette définition, on voit comment le désir est intrinsèquement lié à l'idée de bonheur. Sans ce désir d'être heureux, on ne voit pas comment on pourrait parvenir à l'être. Premier point.
On voit d'ailleurs ici une démarche qui est commune à bien des philosophes. On en a parlé d'ailleurs cette semaine. Spinoza, au début du traité de la réforme de l'entendement, je le redis pour mémoire, pense un souverain bien qui transcende en un sens les faux biens ou les demi-biens que sont l'honneur, la gloire ou la lubricité. Alors évidemment, le désir de ce souverain bien, de ce bien dont la nature est certaine mais l'obtention difficile, le désir de ce souverain bien ne se fait pas chez Spinoza au dépens de l'honneur, de la gloire ou de la lubricité. Il dit, c'est pas grave, j'ai beau voir tout ça clairement, je n'en continue pas moins à désirer l'honneur, la gloire et la lubricité. Néanmoins, tout comme Aristote, il identifie un bien qui dépasse, qui excède parce qu'il est désirable en lui-même et que son obtention n'en épuise pas le désir. Il identifie un bien qui dépasse les biens provisoires et éphémères de l'existence.
Oui, le bonheur est cette satisfaction suprême. Donc, il s'inscrit dans l'idée d'une hiérarchie, en effet, des biens. Tout à fait. Et particulièrement dans ce passage d'Aristote, on voit comment ce caractère suprême est lié au suprêmement désirable. C'est donc le premier point qui semble lié de manière naturelle le désir et le bonheur. Deuxième point, je ferai référence à des définitions qui sont des définitions courantes des deux termes, des définitions nominales. Le désir est défini comme une tendance consciente orientée vers un but, un objet conçu ou imaginé comme source de satisfaction. Premier point. Et le bonheur est défini, si j'ouvre mon dictionnaire, comme un état de satisfaction de toutes les tendances humaines.
On pourrait aussi définir l'ennui de cette façon, Violaine Chavannes.
Alors, ça, on va voir ça dans la deuxième partie,
vite. Pardon, ne brûlons pas les étapes, pardon, allez-y.
Tout à fait. Et donc, en tout cas, on peut voir que les deux, puisqu'il s'agit vraiment de montrer aux élèves comment on argumente, précisément, s'ils vont trop vite, ils vont se retrouver aussi très vite à court d'idées, alors qu'au fond, ils ont senti beaucoup de choses, mais ils ne savent pas forcément comment les développer. Donc, en tout cas, les deux s'expriment en termes de satisfaction. Et puis, on sent que le bonheur serait finalement la somme de toutes ces satisfactions, de toutes les tendances satisfaites, c'est-à-dire de tous les désirs. Ainsi, on pourrait définir le bonheur comme ce qui s'identifie aux multiples plaisirs, puisqu'un désir satisfait, c'est un plaisir. C'est donc une première conception du bonheur que l'on rencontre en voyant comment il y a un lien naturel ici entre désir et bonheur.
Ce faisant, on souscrit à une définition que Kant dirait empirique, peut-être, du bonheur, c'est-à-dire d'un bonheur qui finalement est relatif à chaque individu, à chaque sujet empirique. En somme, il est autant de bonheur qu'il est de désir. Nous n'avons pas, vous et moi, les mêmes désirs, par exemple, donc nous n'aurons pas, vous et moi, la même conception du bonheur.
Tout à fait, c'est une définition empirique, et c'est ce qui rend aussi le sujet peut-être un peu délicat parfois pour les élèves, puisque en même temps, nous n'aurons pas le même bonheur, le contenu changera, mais la conception est la même, nous l'identifions à la somme des plaisirs. Donc, évidemment, nous sommes différents, etc. Donc, nous n'avons pas les mêmes plaisirs, mais c'est quand même cette même conception. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à percevoir pour les élèves. Et il faut qu'ils essayent de faire vraiment cette distinction. Sinon, ils risquent de tomber dans une énumération des différents bonheurs, une maison pour un tel, qui le grand amour pour un machin, qui le grand voyage pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et finalement, d'en revenir à la conclusion, de terminer dans la conclusion, en ayant vu que c'était trop difficile en fait, d'aborder les choses comme ça, parce que c'était impossible, en fait, on est dans la variété infinie, et de conclure sur une sorte de relativisme paresseux, mais de toute façon, le sujet n'est pas traitable parce que le bonheur, il n'y a pas de bonheur unique, ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment faire la distinction entre le contenu du bonheur et la conception du bonheur. Voilà. Et dans ce sens-là, alors si on reprend cette conception du bonheur qui s'identifie au plaisir au pluriel, puisqu'il s'agit des désirs au pluriel, on pourrait faire référence ici à un fameux passage dans le Gorgias de Platon, où Calliclès, qui est l'interlocuteur de Socrate, soutient la thèse suivante. Le bonheur, loin de consister dans une modération des désirs, ce que voudrait la morale des faibles, comme ils les appellent, qui ne sont ni assez puissants matériellement, ni assez courageux moralement pour poursuivre leurs désirs. Le bonheur consiste, selon Calliclès, à pouvoir entretenir et satisfaire tous ses désirs, grâce à son intelligence et grâce aussi à une aisance matérielle. Le bonheur correspondrait donc à une jouissance sans limite.
C'est intéressant parce que Calliclès dit ça juste après avoir dit que la philosophie était un exercice pour jeunes gens et que quand on grandit un petit peu, il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire notamment la politique, par exemple.
Oui, mais ça n'est pas... Vous dites ça comme si c'était contradictoire.
Non, je ne dis pas que c'est contradictoire. Je dis que c'est le même homme qui méprise ouvertement et ostensiblement la philosophie, qui par ailleurs considère le bonheur, ou réduit peut-être le bonheur, ou résume le bonheur à la satisfaction des désirs.
Il y a quelque chose de toute façon là-dedans qui en effet est commun.
Mais attention au hors-sujet hein, quand même. Hein.
Oui.
Mais bon, c'est une remarque au passage.
D'accord. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose de tout à fait cohérent chez Calliclès. Puisqu'on verra que Socrate, lui, va plutôt évidemment s'opposer en tant que philosophe à cette conception. En tout cas, cette conception de Calliclès renvoie à cette idée d'une jouissance sans limite à laquelle nous faisions référence dans l'introduction, qui est amenée, qui est entretenue par la société de consommation. Tout de suite, et pour comme transition et pour passer à notre deuxième partie, on pourra remarquez que si le bonheur est un état, et il s'agit de faire une transition par rapport à la conception du bonheur lui-même, et non pas se dire « oui, mais il y a d'autres philosophes qui pensent que », il ne faut pas du tout articuler comme ça, il y a quelque chose qui concerne les choses mêmes à travers leur concept.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juxtaposer les théories du bonheur, mais de passer, gagnant du temps, même si on va ensuite le reparcourir, de la définition du bonheur comme état au bonheur comme activité.
Tout à fait.
C'est ça l'enjeu.
C'est-à-dire de faire rebondir la réflexion sur la conception du bonheur lui-même. Et ensuite, de convoquer les auteurs s'ils nous permettent de développer ces points de vue.
Donc Calliclès et la société de consommation.
Et donc justement, le problème, c'est que si on considère que le bonheur est un état, il désigne un état de satisfaction, c'est-à-dire qu'il suppose une certaine stabilité de la satisfaction, la conception de Calliclès et celle de la société de consommation sous-jacente ne donne pas vraiment lieu à du bonheur dans le sens où elle ne donne pas lieu à une satisfaction stable, excusez-moi, mais plutôt à une intermittence perpétuelle de la satisfaction, entrecoupée de moments de manque, entrecoupée de moments d'inquiétude, et ce qui nous amène à finalement voir que désir et bonheur ne vont pas si bien ensemble, que leur lien n'est pas si naturel.
En somme, hein, votre transition, c'est si le bonheur est un état, c'est un état dont l'obtention se fait à mesure qu'on satisfait nos désirs, mais ces désirs en eux-mêmes, d'abord, peuvent être suscités, ça c'est vraisemblablement ce qu'on va voir aussi, hein, la façon dont on fabrique le désir, et enfin, réduire le bonheur à la satisfaction des désirs expose en somme finalement à n'être jamais satisfait. Certaines chansons sont plus efficaces que des traités entiers en matière de critique de la société de consommation. C'est le cas indéniablement de la très belle chanson d'Alain Souchon, « Foule sentimentale », qu'on peut avoir en tête, qui peut venir en tête à l'instant où l'on parle du bonheur et du désir, et surtout du bonheur conçu comme satisfaction des désirs qui eux-mêmes sont engendrés aussi par la société de consommation. Violaine Chavannes, on en revient au sujet, on est ici au terme d'une première partie où l'on s'aperçoit que réduire le bonheur à la satisfaction des désirs, c'est s'exposer au malheur, c'est ce qui vous sert de transition pour en venir à la deuxième partie.
Où je vais développer dans cette deuxième partie en quoi le désir fait obstacle au bonheur, c'est-à-dire que voilà, la transition m'a aidé à donner l'idée de ce que je vais développer comme argument. Et dans un premier temps de cette deuxième partie, je me concentrerai un peu sur la fragilité de la satisfaction. En effet, nous avons vu que la satisfaction du désir est éphémère et que le désir est renaissant. Donc, aussitôt comblé, l'individu ressent de nouveau le manque lié à un nouveau désir.
Vous êtes chez Schopenhauer ici. Hein.
Et voilà. Et donc, je vais bientôt arriver à Schopenhauer. Mais bien juste avant, je voudrais revenir un peu sur cette étymologie du mot désir, desiderare, qui veut dire regretter un astre disparu, ce qui veut dire qu'on ne désire pas seulement ce dont on manque, mais aussi ce qu'on n'a plus. Et ce qui rend le désir d'autant plus désespérant, encore plus désespérant, on va dire, c'est-à-dire qu'on désire quelque chose que l'on aurait possédé et qui est désormais dans un temps révolu. Le désir, par principe, manquerait son objet. Donc,
à la façon, par exemple, dont le narrateur, dans La recherche du temps perdu, tombe amoureux d'Albertine à la seconde où il apprend sa mort.
Exactement. Une personne peut nous apparaître d'autant plus désirable qu'elle nous est inaccessible, alors que ce soit pour cause de mort ou pour d'autres raisons. Et on peut penser aussi d'une certaine manière à la psychanalyse, à Freud, qui nous dit que nos désirs amoureux dans notre vie adulte sont déterminés par ce que nous avons vécu dans notre première enfance et qu'il y aurait un modèle de satisfaction ou même un modèle d'être, puisque finalement, étant amoureux de notre père pour les petites filles, des mères pour les petits garçons, finalement, nous recherchons quelqu'un inconsciemment, bien évidemment, qui ressemblerait à ce premier objet d'amour. Et évidemment, nous le manquons toujours. Nous ne pouvons pas le retrouver. Et alors, nous arrivons ensuite à cette idée, si on insiste sur cette tragédie du désir, je ferai référence ici à Schopenhauer et à son texte « Le monde comme volonté et représentation ». Il nous montre dans ce texte, enfin dans un extrait de ce texte, que le désir comme manque, comme souffrance, est d'abord ce qui se fait d'abord sentir à la sensibilité. Et la satisfaction en comparaison est fort peu sensible. Par conséquent, pour sentir la valeur d'un bien, il faut l'avoir perdu. Il faut éprouver la souffrance de sa perte. Et ce qui fait que quand nous possédons un bien sans l'avoir déjà perdu, nous ne nous en rendons pas compte. Quand nous sommes jeunes, nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes jeunes. Cela ne rend pas heureux. En revanche, quand
On serait heureux d'être jeune une fois qu'on ne l'est plus.
Voilà, une fois qu'on est vieux, on peut se représenter l'image du bonheur comme étant associée à la jeunesse. Ah, si j'étais heureux, si j'étais jeune, etc. Donc,
si jeunesse savait, si vieillesse pouvait,
tout voilà. À fait. Donc, la jeunesse, comme par exemple la santé, et la santé n'est désirable que quand on a été malade, après tout, et peut être associée à un bonheur possible quand on ne l'a plus. C'est pour ça qu'il dit que le bien-être, qu'il associe au bonheur, enfin c'est le mot pour lequel il désigne le bonheur, n'est pas positif. Mais n'est que négatif, au sens logique du terme. C'est-à-dire, il n'est qu'une absence de malheur. Donc, ça n'est quand même pas grand-chose. Et au fond, le désir nous amène à quoi ? Soit à souffrir, soit à nous ennuyer. Vous en aviez parlé.
Ça, c'est l'alternative schopenhauerienne. Hein, la vie comme oscillation entre la souffrance d'un manque et l'ennui de la possession.
Voilà.
Bien. Ce faisant, Schopenhauer propose effectivement de sortir du désir. C'est une fameuse impasse ou aporie schopenhauerienne, puisqu'il dit qu'il faut désirer, ne plus désirer.
Oui, mais alors là, on laissera Schopenhauer pour le moment de ce côté-là. Je m'en suis servi surtout, on n'est pas obligé de se servir toujours de tout, mais surtout pour le caractère critique, pour le problème qui vient du désir lui-même et qui me sépare de la question du bonheur. Autre point qu'on pourrait mettre en évidence par rapport au désir, c'est ce qui est relatif à la temporalité du désir et qui fait que la quête du désir et la quête du bonheur à partir du désir de bonheur est toujours impossible. En effet, le désir est une projection vers l'avenir, ce qu'il désire est toujours en avant de lui. Ce qui doit ainsi lui apporter du bonheur est condamné à ne demeurer qu'une promesse. Ainsi, l'homme s'occupe à préparer son bonheur, mais oublie d'être heureux, ne sachant se tenir à ce qu'il a et ne pouvant, et là je pense à Pascal, se tenir au seul présent. Donc en effet, Pascal, dans les pensées, plus particulièrement dans la pensée 172, résume cette impasse en écrivant « Ainsi nous ne vivons jamais,
mais espérons de vivre.
Mais nous espérons de vivre ». Si en plus on ajoute à ce problème du temps la question de l'imagination qui est liée au désir, les choses s'aggravent encore plus. En effet, le temps du désir est celui de l'attente, donc l'imagination a de quoi s'emballer, elle gouverne nos représentations et fait espérer une satisfaction qui sera par principe en décalage avec le réel, puisque finalement nous fantasmons notre bonheur sans évidemment pouvoir le trouver tel que nous l'avons fantasmé. Nos désirs forment donc une image du bonheur, mais en même temps, ils nous séparent de la possibilité réelle de vivre le bonheur. Nous sommes donc en présence d'une non-coïncidence principielle entre le désir et le bonheur. Désir et le bonheur, c'est précisément ne pas l'être. Ce qui fait que, dans un troisième sous-moment de cette deuxième partie, on peut faire une place à la tentation de l'ascèse, ce que j'appellerais la tentation de l'ascèse. Si en effet ce désir est si, disons, douloureux...
C'est-à-dire ce désir qu'on situait dans une première partie à l'origine même du bonheur, en tout cas du désir de bonheur, en devient l'obstacle pour les mêmes raisons. Ça, c'est important de le noter également. C'est qu'il ne s'agit pas dans une dissertation de prendre le contre-pied de la position qui est celle de la première partie. Il ne s'agit pas dans une deuxième partie de dire le contraire de ce qu'on a dit dans la première, mais de creuser tout simplement, de mener à leur terme finalement les conséquences des postulats qu'on a établis dans la première partie.
Tout à fait, ce qui fait que le passage d'une partie à une autre n'est pas du tout une contradiction, mais au contraire un approfondissement. Il s'agit précisément d'approfondir la description, l'analyse d'une notion qui, dans une première partie, était plus superficielle. Et donc, c'est dans cette analyse plus approfondie qu'on s'aperçoit qu'en fait, les choses ne sont pas aussi simples et qu'on n'est pas du tout dans la contradiction. Et ce n'est pas... c'est simplement un mouvement de progression et d'approfondissement. Et donc, par rapport, une fois qu'on s'est aperçu qu'en fait, ce désir qu'on croyait être véritablement lié au bonheur... finalement lui fait obstacle, on peut évoquer finalement la tentation qui consisterait à finalement ne se satisfaire que des besoins les plus vitaux, À un moment donné, il est peut-être bon de faire une distinction entre besoin et désir, puisque le désir est par lui-même infini, en nombre infini, tandis que le besoin, qu'il soit naturel ou un peu plus large, dicté par la société, est toujours dicté et limité par le milieu. Voilà, donc en nombre plus limité. Donc on pourrait s'en tenir à, finalement à la satisfaction des besoins pour essayer de lutter contre les désirs pour ne pas se rendre malheureux.
Oui, mais à ce moment-là, on obtient une définition négative du bonheur.
Et c'est ça qu'on va voir, c'est le problème. Alors on peut parler d'abord, pour être un peu plus concret, de quelques figures, évidemment. On peut penser aux moines chrétiens, on peut penser aux moines bouddhistes, qui en effet essayent d'agir sur leurs désirs. Mais tout de suite, le problème, c'est qu'on voit que le problème du moine chrétien n'est pas le bonheur, c'est plus un problème moral. Il est là pour racheter les fautes des autres hommes. Et le problème du moine bouddhiste, qu'il faudrait qu'il renonce au désir d'être libéré du désir lui-même. Donc la chose devient en effet très compliquée. Et admettons qu'on parvienne, donc là il faut peut-être montrer qu'il y a, on va voir après, hein, que ça devient peut-être une abstraction presque, cette absence, ce renoncement au désir, ce renoncement absolu au désir, mais admettons en effet qu'on y arrive, finalement le bonheur ici est considéré de manière négative, il est finalement une absence de trouble, ce que les Grecs appelaient une ataraxie. Donc, il serait finalement conçu comme une paix de l'âme et il serait peut-être la seule manière de définir le bonheur, en même temps qu'on peut se dire tout de suite, est-ce que le bonheur consiste dans cette espèce de tranquillité et est-ce qu'on ne retombe pas dans l'ennui dont nous parlait Schopenhauer?
Mais c'est ce que j'allais vous dire, il y a une double objection hein, à faire à une telle conception du bonheur qui serait d'un côté, c'est un bonheur conçu comme la suppression du malheur, donc c'est une définition du bonheur en négatif. Et puis, si tant est qu'on ait le désir d'en venir à l'ataraxie, comment peut-on avoir le désir de n'avoir plus de désir? Comment abolir le désir? Comment vouloir ou comment désirer ne plus désirer sans aussitôt, évidemment, se prendre les pieds dans le tapis?
Tout à fait. Donc on retombe véritablement sur le cercle vicieux qu'on avait noté tout à l'heure et qui, là, nous impose absolument de concevoir le désir autrement. En concevant le désir comme manque, véritablement, on ne s'en sort pas. C'est ainsi qu'on peut annoncer le passage à une troisième partie, où on va voir que si, en effet, de toute façon, le désir est inextricable, finalement, on ne peut pas s'empêcher de désirer, même de désirer, de ne pas désirer, etc. C'est que, finalement, on retrouve ce fait que le désir touche à l'être même de l'homme, qu'il désigne l'essence de l'homme, et qu'il faut reconsidérer les choses de ce point de vue. Et donc, je passerai dans une troisième partie, à la question de savoir comment on peut passer de la nécessité de désirer à la question du bonheur d'être. Et donc, en effet, je verrai d'abord que le désir peut être conçu comme une puissance et non pas du tout comme un manque.
C'est-à-dire qu'il y ait une façon d'envisager le désir qui ne l'indexe pas sur la douleur, sur la souffrance, c'est-à-dire sur le manque. Et ce faisant, donc, qui nous débarrasse de ces impasses, de ces apories. Dans lesquels nous étions. Restera quand même la question de savoir comment, empiriquement, hein, dans la vie quotidienne, effectivement, convertir son désir et le faire passer de la sorte, du manque à la plénitude. Mais allez-y.
Alors, justement, il faut essayer de voir, en effet, que ce n'est pas d'un coup de baguette magique, parce qu'on dit puissance, que tout d'un coup, peut-être, les choses vont mieux. Mais il faut voir comment c'est, en effet, une puissance. Si l'on considère donc que le désir est l'essence de l'homme, on voit que le désir est son mouvement propre. Donc, on va le considérer dans son être même, dans l'être du désir, et on ne va plus considérer le désir du point de vue des objets qu'il vise. Car certainement, ce qui nous piégeait, c'est qu'on avait l'œil rivé du côté des objets et du côté de la possession, d'où on peut faire référence à la chanson d'Alain Souchon, qui parlait de l'avoir, de tout cet avoir que nous avons dans nos armoires, etc. Le désir est un mouvement, et en cela, il est l'expression de la force de la vie, et de force de la vie qui peut être une puissance de création contenue en l'homme. Et c'est ce que montre Platon dans Le Banquet. Alors, on n'en a pas tellement parlé, mais Le banquet se présente donc comme un dialogue où nombre d'invités font leur discours sur le désir, sur Eros. Qu'est-ce qu'Eros ? Et c'est vrai que Eros est présenté comme étant à la fois fils de Pénia et de Poros.
De carence et d'abondance.
De carence et d'abondance. Donc c'est là, cette définition nous explique comment, en effet, il peut être habité par, il désire ce dont il manque, etc. Mais le passage du banquet qu'il s'agirait ici de citer, c'est le moment où Diotime parle. Diotime, c'est une prêtresse, donc c'est la seule femme qui parle. Et
elle parle à travers la bouche de Socrate,
voilà.
Diotime de Mantinée.
C'est
Socrate qui l'a fait parler.
Tout à fait. Au moment donné où c'est le tour de Socrate, Socrate dit « Moi, je ne veux rien dire, vas-y, Diotime, parle. » Il la laisse parler et donc…
Donc Socrate, ventriloque de Diotime. Hein. Il faut lire le banquet, si ça n'est pas encore fait, vous avez le temps d'ici l'épreuve du baccalauréat. Allez-y, Violaine Chavannes.
Oui, et il faut absolument le lire, comme beaucoup de dialogues de Platon. J'en citerai un autre, d'ailleurs, par rapport à ce sujet. Et Diotime dit que le désir est un pouvoir d'enfantement. Le désir des corps donne naissance à d'autres corps, à d'autres êtres humains, tandis que le désir de l'esprit, c'est-à-dire le désir de vérité, donne naissance à de belles pensées et à de beaux discours. Et là, on pourrait faire aussi référence à un autre dialogue de Platon, qui est le Phèdre, où là, il est question précisément de la question de l'oralité des discours oraux, et où Platon nous montre que ces discours oraux, il les préfère aux discours écrits dans la mesure où ils sont inscrits directement dans l'âme de l'auditeur, et que par conséquent, l'auditeur pourra lui-même à son tour enfanter encore de beaux discours, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une logique contagieuse du désir. Le désir ne cesse finalement de produire encore du désir, mais cette fois-ci, nous ne le concevons pas comme étant, ça ne cesse de produire finalement du manque et de la souffrance, mais au contraire comme étant une production, une accumulation de puissance. Et le désir nous donne des ailes, littéralement, c'est ce que Platon décrit dans le Phèdre.
Alors, il décrit ça dans le Phèdre et il commence également dans le Phèdre par un jeune homme qui porte sous le manteau un discours comme un enfant mort-né, d'une certaine manière, c'est-à-dire un discours qui est tout entier écrit, qui a l'inconvénient d'être tout entier écrit et dont Socrate se moque à ce titre. C'est également dans le Phèdre qu'on trouve une critique de l'écriture, au motif justement que l'écriture, qu'un texte répond toujours la même chose aux différentes questions qu'on peut lui poser, de sorte que le désir est davantage dans l'entretien. Au double sens du terme, l'entretien que deux individus peuvent avoir et dans le fait de s'entretenir par son exercice même, par la conversation même. Mais j'ai quand même envie de vous dire, Violaine Chavannes, que le désir chez Platon relève du manque.
Eh bien, il y a, ça c'est ce qu'on retient beaucoup de Platon, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Et pas que ça, ces textes-là quand même existent, ce passage de Diotime existe, ce passage du Phèdre aussi, et le désir, il n'y a pas de pensée chez Platon sans désir de vérité. Au fond, il y a un désir qui est absolument essentiel et qui est porteur d'élévation, qui nous élève. Dans le Phèdre, il dit « des beaux corps à l'idée du beau, puis aux idées elles-mêmes ». Donc il y a cette force du désir qu'il faut reconsidérer. Voilà. Platon lui-même peut voir deux aspects du désir, puisque nous parlions de deux choses qui ne sont pas forcément contradictoires.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le banquet, Socrate refuse de coucher avec Alcibiade, au nom d'une conception plus haute du désir.
Oui, il suffit d'avoir le désir du beau corps, mais il faut, précisément, le désir ne doit pas forcément être satisfait. Il faut que le désir garde sa propre puissance et ne pas, finalement, comment dirais-je, mourir dans sa réalisation.
Oui, mais en même temps, Alcibiade est malheureux.
Alcibiade, oui, mais c'est qu'il n'a pas compris qu'il n'y avait pas que les corps et qu'il fallait passer des corps aux idées, aux beaux, etc., et au monde de l'esprit.
Alors donc, venons-en, hein, puisque c'est un bonheur de parler avec vous et de parler du bonheur. Venons-en donc, on s'approche du terme hein, de cette dissertation, de cette conversation en votre compagnie, Violaine Chavannes. Allons-y, donc on est là en train de parler du désir comme une positivité finalement, hein, comme une
Tout
puissance féconde.
Tout à fait. Et donc, alors juste, mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je peux l'indiquer pour les élèves. Dans le registre, le désir comme puissance, évidemment, vous aviez... on peut penser à Spinoza et à, notamment à la proposition 9 de la partie 3 où Spinoza rappelle que le désir est le mouvement par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être et commente cette définition en disant que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, mais c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. Ce qui signifie que finalement, il ne faut plus considérer le désir du point de vue finalement de son objet. Le désir est plus fort que l'objet qui peut ou non le satisfaire. Voilà comment on peut partir de cette conception. Juste, donc pour terminer, et pour tirer les conséquences de ça, il faudrait, et ne pas annuler totalement ce que nous avons dit en effet en première partie et en deuxième partie, on pourrait faire une distinction entre deux types de désirs, et entre des désirs passifs, qui sont des souhaits, qui sont en attente d'une satisfaction qui viendrait du dehors et qui viendrait plus tard. Et opposé à ces désirs passifs, des désirs actifs, qui, eux, sont l'expression de notre puissance d'exister. On peut, par exemple...
Là, on est typiquement chez Spinoza, hein, désir passif ou désir actif.
Désir actif, totalement.
Dans un cas, il faut bien dire aussi que le désir passif est un désir qui relève de l'ignorance ou d'une connaissance tout à fait partielle des choses, alors qu'un désir actif, c'est un désir en pleine connaissance de cause.
Voilà, donc chez Spinoza, ça permet de ligner cette question, finalement, de relier désir et bonheur en y ajoutant le terme de la connaissance et de la raison. Donc on peut par exemple, alors là je désirais danser et finalement être heureux parce que ce désir est une satisfaction qui ne cesse pas et qui continue dans l'acte même de danser. On peut donc dire que le bonheur est un état ici au sens où il s'agit d'un plaisir d'être.
Et dont la danse pourrait témoigner au motif que danser, on danse pour danser, on ne danse pas pour faire autre chose.
Tout à fait. Je peux me promener parce que j'ai envie de me promener et ne pas être malheureux parce que je viens de faire 3 pas et qu'il ne me reste pas forcément beaucoup de temps à me promener. C'est la même chose pour tout ce qui est de l'ordre des actes. On peut être heureux d'être amoureux pour autant que finalement c'est mêlé à une certaine action, qu'on est actif. Également dans cet amour. Donc, il y aurait ici à insister, et c'est là qu'on revient peut-être par différence à la société marchande, à insister sur la question du désir d'être. Que peut-être on peut faire se réconcilier ces notions entre désir et bonheur, et même pas peut-être en fait, hein, c'est une précaution rhétorique, je l'affirmerai davantage ici, entre on peut réconcilier désir et bonheur, pour autant qu'on parle du désir en termes d'être et non pas en termes de possession d'objet. Le désir ne s'épuise pas dans la possession de l'objet, puisque précisément il s'agit de désirer, d'exprimer notre puissance d'exister, de s'exprimer soi-même dans le désir. Et on ne confondra pas ici le bonheur avec les jouissances de la possession d'objets extérieurs.
Quand je danse, je danse. Quand je dors. C'est Montaigne qui le dit voilà. Au terme des essais. Hein, c'est le dernier chapitre des essais. C'est le désir d'être sous sa forme la plus pure et plus tautologique, qui est également l'autre nom du pur plaisir d'exister. On arrive au terme de cette émission. Violaine Chavannes, merci d'être venue nous voir.
Merci.
Fuir le bonheur de peur. Se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui me se sauve.
C'est donc avec vous, Violaine Chavannes, que s'achève cette semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine qui pour nous a été une journée assez longue, je dois dire, pour tous ceux qui ont travaillé à cette émission. Évidemment, Adèle Van Redt, Jennifer Murzo, Geneviève Méric, Igor Kortolitsa, qui nous quitte aujourd'hui et qui va bien nous manquer. Cédric Aussir à la réalisation et Philippe Mercher à la technique. Violaine Chavannes, je rappelle que vous enseignez en terminale L, S, E, S et STI au lycée Cugnot de Neuilly-sur-Marne, que par ailleurs vous terminez une thèse en esthétique à Paris 10, donc à Nanterre, et que vous avez une formation parallèle dans le domaine du théâtre, ce qui n'est pas étonnant.
Toujours plus haut le sol et above, radieux.
Je rappelle également que toute cette semaine, les nouveaux chemins de la connaissance étaient en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine, le guide de survie du bac philo réalisé sous la houlette de Charles Pépin, dont vous pouvez réentendre l'émission. D'ailleurs, c'était l'émission de lundi dernier. Toutes les émissions, hein, encore une fois, sont téléchargeables sur le site internet des nouveaux chemins de la connaissance. Voilà, au terme de cette semaine, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous les candidats et bon courage d'ailleurs à ceux qui rateront le bac, car il y en aura. Remercier tous ceux qui ont travaillé pour nous, travaillé à la réalisation de cette semaine. Remercier également d'ailleurs Radio France de nous avoir prêté le sublime studio 107, autrement appelé le studio Mireille. Et enfin, sous quelques mesures de Gainsbourg, de Jane Birkin, sur France Culture, il est 17h50 et tout de suite, Albert Jacquard.